franceinter.fr.
Et nous marchons dans les traces des dinosaures géants aujourd'hui à la une de la science.
Wow ! Regardez ces empreintes ! Il y en a au moins des centaines !
Ma maman m'a dit qu'il y a des millions d'années, c'était un lac ici. Les traces de pas des dinosaures sont restées dans la boue sous l'eau. Ensuite, le sable et d'autres choses se sont mises dans les empreintes et se sont tout doucement transformées en pierre.
Ah, d'accord.
Et c'est en 2009, en l'occurrence, que des membres de la société naturaliste de Yonax découvrent la première empreinte de pas géante près de la commune de Plagne, dans le Jura. Et s'en sont suivies 8 années de travaux scientifiques avec des fouilles, des mesures, du dégagement pour mettre au jour donc la plus longue piste de dinosaures sauropodes jamais découverte. Elle s'étale sur 155 mètres. Et c'est une publication d'envergure à bien des égards, Axel, dont on discute avec notre invité.
Oui, Mathieu, on est en ligne avec Jean-Michel Mazin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléontologue, directeur de recherche émérite au CNRS et vous avez dirigé cette grande et longue campagne de fouilles. Alors, 110 traces de pas sur 155 mètres, ça fait des grandes enjambées. Quelle taille faisait ce dinosaure?
Alors, les évaluations nous amènent vers 35 mètres de longueur à peu près. Hein.
Ah oui, quand même.
Et oui, une bonne quarantaine de tonnes.
Est-ce que vous lui avez donné un nom? Est-ce que vous avez déterminé quel dinosaure?
Alors oui, c'est un dinosaure sauropode, donc ces fameux géants à long cou. Et parmi les dinosaures c'est plutôt un dinosaure titanosauroïde, c'est-à-dire qui évoque déjà ce que seront les titanosaures de la fin du Crétacé, quelques millions d'années plus tard.
Donc il marchait bien sur 4 pattes.
Ah, il marchait sur 4 pattes sans aucun problème. On a les traces des pieds, des mains, c'est superbe, c'est merveilleux. Avec la trace des doigts, enfin, c'est d'une grande finesse pour des bêtes aussi grosses que ça.
Oui, vous parlez des pieds et des mains, d'ailleurs, Jean-Michel Mazin, pour les dinosaures?
Oui, anatomiquement, le mot pes, latin pour le pied, le mot manus pour la main, sont utilisés scientifiquement. Alors, on pourrait dire patte avant, patte arrière, c'est sûr. C'est peut-être plus facile à comprendre, mais on parle des pieds et des mains.
D'accord.
Alors en 2009, vous avez trouvé la première empreinte. Qu'est-ce qu'il s'est passé pendant 8 ans pour que vous arriviez à cette grande publication aujourd'hui? Quelle a été la plus grande partie du travail?
Alors il y a déjà eu 3 années de suite des fouilles, des grosses fouilles avec une quarantaine d'étudiants. Il fallait réunir une équipe qui soit à la dimension de la bête et de l'objectif. Donc il y a eu 3 années de fouilles et ensuite il y a eu encore 2 à 3 années d'études complémentaires, c'est-à-dire d'études sur l'anatomie des pieds et des mains, justement, d'études géologiques. Mes deux collègues, mes deux co-auteurs sont 2 géologues, donc qui se sont attachés à préciser l'environnement dans lequel ces pistes se sont réalisées. Et donc nous avons lancé la rédaction du papier au bout de 6 ans, et le délai d'un an pour la sortie d'une publication est un délai raisonnable.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre au jour ces traces? Elles sont sous beaucoup de matière, beaucoup de terre, beaucoup de pierres?
Alors il se passe qu'une bonne partie de ces empreintes affleurent sur ce grand plateau jurassien. C'est superbe, le paysage est merveilleux d'ailleurs. Et certaines affleurent, certaines sont, disons, en cours d'érosion, tout simplement. Et on arrive à les voir, c'est comme ça qu'elles ont été découvertes, soit sur des chemins, soit sous la prairie elle-même, la végétation, l'herbe de la prairie. Mais il y a des zones latéralement où ces pistes sont encore protégées par un banc de 50 à 70 cm de calcaire. Et c'est là que nous sommes allés chercher les plus belles empreintes là-dessous, puisqu'elles étaient protégées, pas du tout érodées. Elles étaient superbes. Donc le plus gros travail de fouille à proprement parler a été ça, de descendre ces 50 cm de calcaire très dur pour aller chercher les empreintes dessous.
Jean-Michel Mazin, on est à quelle période exactement avec ces sauropodes géants là?
Alors on est exactement à moins 150 millions d'années, c'est-à-dire au Titonien inférieur, à la fin du Jurassique.
Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu les plus belles de ces empreintes? À quoi elles ressemblent alors?
Alors les mains ressemblent un peu à un trèfle à 5 feuilles, c'est très joli, avec 5 doigts ronds qui sont alignés en couronne. Les pieds, eux, sont beaucoup plus longs, mesurent 1 mètre de longueur à peu près. Ça fait une belle pointure, hein. Et donc il y a également 5 doigts, mais qui là sont beaucoup plus ovoïdes, plus allongés. En fait, il faut bien voir que ces animaux marchaient sur la pointe des doigts à l'avant, pour des bêtes de 40 ou 50 tonnes, c'est toujours étonnant, mais mécaniquement, c'est le plus efficace, c'est-à-dire une digitigradie totale, comme une danseuse sur ses pointes. Et à l'arrière, les pieds sont un peu allongés, avec un talon et tout, mais relevés au niveau du talon, et appuyant sur une grosse masse, un gros coussin de tissu conjonctif, un petit peu comme chez les éléphants aujourd'hui. Et c'est un bon moyen d'absorber les contraintes liées au poids, liées à la masse de l'animal, et d'éviter ainsi que les chevilles n'explosent littéralement sous la masse.
Vous avez été capable de calculer la vitesse de déplacement ?
Oui, nous disposons d'équations qui fonctionnent très bien, et on a pu l'évaluer à environ 4 km/h.
C'est la vitesse de marche d'un humain, ça veut dire que quand vous suivez la piste, vous avez l'impression de marcher avec le dinosaure alors ?
Exactement, c'est-à-dire cette piste en fait représente 3 minutes et demie à peu près d'activité d'un animal. Et c'est très, très étonnant en paléontologie, où l'on récupère, on récolte en général des animaux morts et pétrifiés. Là, on a plutôt une espèce de film de 3 minutes et demie de la vie de cet animal. Il tourne à un moment pour échapper à une zone un petit peu boueuse, puis il accélère en fin de parcours. Enfin, c'est vivant.
C'est une marche assez lente quand même, Jean-Michel Mazin. Est-ce que c'était, selon vous, la marche habituelle d'un sauropode, ou là, précisément, celle qui a été figée dans la Terre,
hein ? Non, c'est d'une manière générale, toutes les pistes de sauropodes qu'on trouve dans le monde sont aux alentours de 3 à 5 km heure, rarement plus. Il faut quand même les déplacer 40 tonnes ou 50 tonnes, c'est quand même... ça dépense beaucoup d'énergie, donc ces animaux, effectivement, étaient, pour ce qu'on en sait, relativement lents, mais lents par rapport à ce qu'ils sont. 4 km/h, ça a l'air d'être une sorte de vitesse de croisière.
Est-ce que vous avez trouvé d'autres traces, d'autres dinosaures, d'autres animaux ?
Alors oui, en fouillant, en exhumant cette piste-là, qui fait donc plus de 150 mètres de long, on a trouvé, croisant cette piste, des pistes de dinosaures théropodes à trois doigts, des dinosaures carnivores. Et ça, c'est assez courant dans tous les sites du monde où l'on trouve des empreintes de sauropodes, pratiquement tous. Il y a toujours des petits carnivores qui les accompagnent. Alors la raison profonde, on l'ignore, mais c'est une observation classique. Alors est-ce qu'ils étaient là à guetter la moindre défaillance d'un énorme garde-manger ? C'est pas impossible, mais ils n'étaient de toute évidence pas capables d'attaquer physiquement des masses aussi imposantes de 40 ou 50 tonnes, mais peut-être étaient-ils à l'affût constamment. En tout cas, c'est quasiment une constante.
Et parce que ces grands sauropodes étaient végétariens, eux, Jean-Michel Mazin, hein ?
Tout à fait végétariens, parce qu'on en sait. Ils ne mangeaient que des végétaux et avalaient absolument tout ce qu'ils trouvaient sur leur passage.
Et justement, vous parliez de l'environnement. Est-ce qu'on a une idée de l'endroit où ils se trouvaient ?
Alors là où ils ont marché, c'est un fond de lagune, c'est-à-dire une zone qui est atteinte, on est sur le littoral, des zones qui sont atteintes par des très grandes marées, hein, ce qui explique probablement que après une très grande marée, la boue déposée soit encore un peu meuble, que l'animal ait laissé ses empreintes, et qu'ensuite, en attendant les prochaines grandes marées, plusieurs mois après, ces empreintes ont séché au soleil, et puis ont fini par être couvertes et protégées.
Voilà, parce que le Jura, à l'époque, était sous l'eau. Il faisait très beau et très chaud. Merci beaucoup, Jean-Michel Mazin, pour ces observations avec cette piste de dinosaures. Et puis, Axel, on se retrouve lundi.
À lundi.
Bon week-end. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, une nouvelle exoplanète dans le giron des astronomes. Elle s'appelle Ross 128b, à peine plus massif que la Terre. Cette rocheuse tourne autour de sa naine rouge en seulement 10 jours. Et son attractivité tient au fait qu'elle soit tout près de nous par rapport à beaucoup d'autres exoplanètes déjà débusquées, à seulement 11 années-lumière, 11 ans de voyage à la vitesse de la lumière, hein, donc inaccessible pour l'instant, mais assez proche pour l'observer en détail, son étoile avec les télescopes géants, et avoir une chance de voir son atmosphère avec la future génération d'instruments d'observation. Une prétendante supplémentaire qui avec Proxima B devrait à l'avenir attirer tous les regards. Et si on avait tout faux concernant le mode du sans gluten, alors que la maladie cœliaque, maladie auto-immune qui cause une véritable intolérance au gluten, touche moins d'1% de la population, près de 10% de nos concitoyens déclarent aujourd'hui mal digérer le gluten. Une étude australienne aujourd'hui montre que pour ces personnes-là, le problème n'est peut-être pas le gluten, mais le fructane, un autre sucre contenu dans le blé, mais aussi dans certains légumes. Les chercheurs ont mené des tests sur un groupe de personnes volontaires auto-déclarées intolérantes résistante au gluten. Ils leur ont donné à l'aveugle des barres de céréales contenant soit du gluten, soit du fructane, soit aucun des deux. Et seuls les volontaires ayant consommé la barre au fructane ont déclaré des symptômes gastriques. Des recherches complémentaires permettront certainement d'en savoir plus. Et puis des corbeaux ramasseurs de mégots, voici l'idée d'une société néerlandaise qui entend bien employer les corvidés qui vivent dans nos villes pour participer à la dépollution. L'idée est très simple, les corbeaux étant des animaux très intelligents, quasiment autant que les chimpanzés, ils comprennent les notions de troc et d'échange. Les chercheurs comptent donc aménager des distributeurs de nourriture spécialement conçus pour ces oiseaux qui se verront délivrer une cacahuète en échange d'un mégot de cigarette déposé. Reste selon les ingénieurs à entraîner quelques oiseaux pour que le savoir se diffuse de lui-même parmi la population.